pendant le message. Et donc, ce matin, cet après-midi, on est tellement habitué à ce que ça se passe le matin. Donc, on va parler du baptême. J'ai quatre premiers textes à lire avec vous. Le premier texte, c'est Matthieu 3, 13 à 17. Il y a une petite erreur sur l'écran, c'est 3 en fait. 13 à 17, c'est moi qui fais cette erreur. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant. » Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix forte fit entendre du ciel ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Ensuite, nous avons le texte de Marc. Marc 1, versets 9 à 11. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au même moment, il sortait de l'eau. Il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as tout. Mon approbation. Dans Luc 3, les versets 21 à 22, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Enfin, Jean 1, à partir du verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'en rendis aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Seigneur, nous nous jetons à tes pieds, Seigneur, parce que ce moment est le moment d'écouter ta parole, Seigneur. Et nous prions aussi pour que ce soit le moment de mettre en pratique ta parole. Seigneur, remplis ce lieu. Que tout ce qui soit dit pour ta gloire. Parce que toi, tu es un Dieu de gloire. Nous annulons, Seigneur, tout ce que l'ennemi veut faire en ce moment contre ce lieu. Nous annulons les esprits d'assoupissement. Nous annulons, Seigneur, les esprits de fatigue. Dans ton nom. Que le sang que tu as versé à la croix inonde ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Le baptême d'eau de Jésus, lorsqu'on est croyant, notre référence c'est Jésus-Christ. Ce que Jésus fait, c'est ce qui nous pousse aussi. Et Christ va se faire baptiser, et d'ailleurs, Jean-Baptiste est très surpris de voir Jésus arriver devant lui pour se faire baptiser, parce qu'il voit bien qu'il y a une particularité en cet homme. Qui est Jésus? Celui que les Juifs appelaient Rabbi, quelqu'un d'extrêmement profond, qui avait une connaissance de la parole extraordinaire. Et même Jean-Baptiste est surpris que Jésus lui dise « Il faut que tu me baptises ». Mais dans cet acte, Jésus montre lui-même l'exemple, puisque désormais ceux qui viennent après vont suivre le même chemin. Il faut bien que Christ montre le chemin, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et en même temps, Christ se fait baptiser parce qu'à ce moment-là, lui qui est sans péché, je fais remarquer une chose extraordinaire, c'est que même le Coran dit que Jésus est sans péché. Très curieux. Lui qui est sans péché, il y a des vérités qu'on ne peut pas enlever à Dieu. Eh bien, il va aller au baptême pour pouvoir prendre aussi les péchés d'Israël. Et la Bible, en ce moment-là, parle d'Israël comme de toutes les nations, pas uniquement le peuple juif. Il fallait bien qu'il y ait ce baptême de repentance, ce baptême d'eau, pour que le peuple puisse aussi suivre le chemin de cette repentance. Parce que vous l'avez bien compris, il n'y a pas de conversion sans repentance. On est obligé de passer par la repentance pour se convertir. On est obligé de se reconnaître pécheur pour savoir qu'on est éloigné de Dieu. Et vous savez, le malin est celui qui fait apparaître le péché comme quelque chose de tout petit. Qui d'entre nous n'a pas entendu parler de l'expression « péché mignon » ? La difficulté de cette expression, c'est que devant Dieu, il n'y a pas de péché mignon. Le péché est le péché et il doit être condamné. Dans le baptême, Dieu a déjà montré dans l'Ancien Testament, la préfigure de Christ. Parce qu'en fait, de Genèse à Apocalypse, ce livre parle énormément de Jésus-Christ. Et le baptême du Christ était déjà annoncé bien avant. Ainsi donc, dans 1 Corinthiens, il y a une préfigure dans l'Ancien Testament. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2, il est dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Dans Exode 14, le peuple sort d'Égypte. C'est très curieux pourquoi ce peuple doit traverser une mer. Et pourquoi le Saint-Esprit descend, parce que lorsqu'il marche le soir, c'est le Saint-Esprit qui les guide en fait. Parce qu'il n'y a pas de... Si vous faites l'exercice de marcher dans la nuit, c'est très compliqué quand il n'y a pas de lumière. Extrêmement compliqué. Il faut une lumière. Donc, le Saint-Esprit descend pour éclairer le peuple. Et là, déjà, on présentait déjà le baptême de Christ. Parce que justement, lorsque Christ entre dans l'eau ressort, le Saint-Esprit descend. Mais même avant ça encore, dans Genèse 8, un homme va fabriquer une arche. Et ses contemporains vont rire de voir quelqu'un fabriquer une arche là où il n'y a pas d'eau. C'est Noé. Noé et ses enfants, Noé, Dieu va lui donner une vision de fabriquer une arche. Et ceux qui étaient autour se disaient, mais il est devenu aliéné parce que l'arche va servir à quoi? Il n'y a pas d'eau. Mais le déluge est arrivé. Et souvenez-vous, pendant ce déluge, beaucoup sont morts, le jugement de Dieu. Il ne restait plus que 8 personnes sur la terre. Et c'est une colombe qui a ramené à Noé la petite fleur qui indique qu'il y a une terre à un certain endroit. Donc, la préfigure du baptême de Christ était déjà expliquée dans l'Ancien Testament. Elle apparaissait déjà. Et ça, c'est aussi c'est dans 1 Pierre 3, les versets 19 à 21, où il nous est rappelé, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était aussi une préfigure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection. Donc ces choses étaient déjà prophétisées. Et quand quelqu'un connaissait assez bien les écrits hébraïques, il pouvait voir tout de suite le lien entre la vie de Jésus et ce qui avait été dit avant. Parce que si vous prenez la vie de Jésus, en détail, tout est déjà expliqué dans l'Ancien Testament. Tout apparaît déjà. Il faut juste à chaque fois faire les liens. Pourquoi il y a une colombe? Pourquoi il y a l'Esprit qui descend? Quel est le lien avec l'Ancien Testament? Le baptême signifie le pardon des péchés. C'est très important d'aller sur cette base. Parce que souvent, nous pouvons penser que bon, moi je fais des petits péchés, c'est pas bien grave ce que je fais, j'ai une vie plutôt, voilà, c'est... je suis pas un criminel, quoi. Je vais pas rater des banques, je vais pas égorger des gens en Syrie, je suis pas un terroriste, quoi. Donc, j'ai pas de gros péchés, devant Dieu, je peux me présenter. C'est justement une des attaques du malin parce que c'est ne pas connaître la nature de Dieu. Si vous prenez le temps de lire l'Ancien Testament, l'Ancien Testament révèle aussi la sainteté de Dieu. Dieu dit bien au peuple d'Israël, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si tu entres dans le tabernacle, tu vas mourir. Dès que tu mets ton pied, c'est automatique. Tu meurs. Dieu est une personne sainte. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec le moindre péché. Le moindre, même celui de la pensée. C'est Christ qui nous le rappelle. Donc, nous sommes appelés à la repentance. Dans Actes 2, 38, il nous est dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu lui-même donne une solution face au péché. Puisque tu es pécheur et tu es éloigné de Dieu, Dieu lui-même te dit ce que tu dois faire pour ne plus être éloigné de Dieu. Voilà la grâce que Dieu présente. Et à travers le baptême, il y a le pardon des péchés et un changement, en fait. Et un changement, on s'engage à changer. Vous avez entendu les témoignages, je faisais ça, je faisais ça. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Pourquoi? Pour plaire à mon Dieu. Le baptême, c'est aussi la nouvelle naissance. Ça, ça nous est rappelé dans Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il faut bien être de nouveau. Il faut bien que les choses anciennes partent. L'exemple sur la musique est pas mal. Parce que moi, j'ai arrêté d'écouter la musique mondaine bien des années après mon baptême. Des années après. Et quand des personnes venaient me dire, mais nous, on n'écoute plus la musique mondaine, je disais, mais ces gens-là, là, c'est de l'extrémisme, il ne faut pas être comme ça. Il y a des choses dans le monde, il faut savoir écouter, il y a des bonnes choses. Et dans ces musiques-là, on parle souvent d'amour. Donc, du coup, avec des jeunes amis, nous avions une chanson où le chanteur se plaignait d'être abandonné par une femme. Et ça, c'était une musique qu'on écoutait en boucle. Du coup, il fallait écouter ça en boucle si jamais tu avais des soucis de cœur. Hein, parce qu'en ce temps-là, bien sûr, comme des enfants du monde dévergondés, il fallait à tout prix avoir une copine. Et j'ai souvenir d'un ami qui nous disait, vous vous rendez compte, cette fille-là, elle m'a dit non, il était midi. Et nous, on ne comprenait pas quel était son choc. Il dit, mais il faisait trop chaud. Elle n'avait pas de douceur. Elle pouvait attendre qu'il fasse moins chaud parce que sous la chaleur, moi, mon cœur, ça n'allait plus. C'était le monde. C'était le monde. N'est-ce pas comment le diable nous manipulait comme il voulait et pourtant baptisé. Hein? Ah, Jésus est bon. Jésus est bon parce qu'il nous rattrape vraiment. Ah là là. Ah là là. Dans quel bout étions-nous? Mais Christ nous a fait roi. Christ nous a fait roi parce qu'il est mort. Et le baptême symbolise la mort du Christ. Lorsqu'on passe dans le baptême, vous remarquez qu'on entre dans une position allongée dans l'eau. C'est la même position allongée qu'on a dans un cercueil. Mais contrairement au cercueil, on ressort debout. Romains 6, verset 3 à 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La mort n'a plus d'effet sur celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette mort aussi rappelle notre circoncision spirituelle, parce que la circoncision aussi, vous voyez dans l'Ancien Testament, on demandait que les garçons soient cette circoncision. Mais désormais, c'est une image. Désormais, par le baptême, Christ permet qu'il y ait une circoncision, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est à la gloire de Dieu. Et ça, on peut le voir dans Colossiens 2. Et c'est aussi une unité qu'on retrouve dans le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » L'Église du Christ, il y a un seul baptême et on est un en Christ. Et ça, c'est le plan de Dieu. Parce que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a jamais dit « Le grec doit être plus fort que le juif, ou le juif doit écraser l'arabe. » Mais Dieu a toujours voulu avoir un peuple d'adorateurs. D'adorateurs. C'est le malin qui crée cette division raciale, d'origine. Ça, c'est le péché du monde. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Le baptême, c'est aussi revêtir le caractère de Christ. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu est obligé de les couvrir. Il va tuer un agneau. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que quand tu as péché, il faut que Dieu te couvre. Il faut le sang de l'agneau. Et le meilleur agneau, c'est pas l'agneau qui avait été offert par Abel. Le meilleur agneau, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est sans tâche et sans défaut. Et c'est lui qui allait à la croix. Pour chacun d'entre nous. Et pour le baptême, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut avoir foi en Jésus-Christ, placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Ainsi, dans Marc 16, 16, il écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême, c'est la voie du salut. C'est pour ça d'ailleurs que le diable se bat comme pas possible pour que les gens ne se fassent pas baptiser. C'est pour ça qu'il veut à tout prix, notamment chez les jeunes, c'est vraiment une difficulté de dire « je veux aller vers le baptême ». Le diable mettra toujours des obstacles, mais non. Si tu te baptises, tu devras changer. Tu vas devenir quelqu'un de bizarre. Tu n'auras plus d'amis. Voilà, tout le monde va te fuir. Tu vas t'habiller. Tu seras couverte. On ne pourra même pas voir tes yeux. Des idées du monde pour t'éloigner de Dieu. Alors que le baptême est l'acte d'obéissance par excellence. J'obéis à Christ. Je veux suivre Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Il est passé par le baptême. Je passe aussi par le baptême. Et voyez-vous, Dieu est un Dieu de grâce parce que à travers le baptême, il y a un autre baptême qui vient. C'est celui qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit.
C'est pour celui-là, dans Jean 1, que Jean-Baptiste dit, celui qui vient, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ainsi, dans la Bible, on peut avoir des témoignages de personnes qui ont eu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Des personnes qui ont eu le baptême du Saint-Esprit pendant le baptême d'eau, mais ça peut aussi être le baptême du Saint-Esprit après le baptême d'eau. C'est la grâce que Dieu fait, que son esprit vienne désormais en toi, parce que c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est que l'esprit de Dieu qui est dans les cieux va descendre comme à la Pentecôte, mais désormais il va entrer en toi. Et ça, c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous fait. C'est une grâce extraordinaire. Je vais terminer par une image. Avant d'utiliser cette image du tabernacle, moi aussi je vais me rappeler de ce que Dieu a fait pour moi, pour mon baptême. Je suis né dans une famille où ma mère était très bouillonnante pour le Seigneur. Son père était pasteur. La grâce qu'elle avait, c'est de nous emmener à l'église. Mon père était catholique non pratiquant, même communiste au bout d'un moment. Et donc, il y avait des fois des conflits à la maison sur l'église. Mais dans ces conflits, ce sont les aînés qui ont subi. Moi, j'ai un peu moins subi. Mon père devenait un peu plus light au fur et à mesure des années, comme je suis le dernier. Et quand ma mère m'emmenait à l'église, donc moi, je n'ai jamais eu la question de me demander est-ce que Dieu existe. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Donc du coup, des fois, vous comprendrez, des fois je peux être maladroit dans certains propos parce que je ne sais pas c'est quoi dire, je crois maintenant en Dieu. Pour moi, on m'a toujours dit Dieu existe et j'ai toujours cru que Dieu existe. Mais là où Jésus m'a touché, j'avais 15 ans, très mal entouré, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Des choses incroyables, franchement. Ce que disent les garçons entre eux à un certain âge, franchement, c'est... Et du coup, moi, ma question fondamentale, c'était la mort. Et oui, j'avais une grande question sur la mort. Je voyais comment ça se passait dans ma maison, comment ça se passait pour mes parents, comment ça se passait pour mes oncles, tout ce qui était autour de moi. Mais il y avait quelque chose qui revenait tout le temps. C'était devenu une obstination. C'est quoi la mort? Qu'est-ce que c'est d'entrer dans un caveau, dans un cercueil, on referme tout? Qu'est-ce qui se passe en bas? Et vous savez, le diable est très méchant. Le diable, comme dit le texte, il est descendu sur terre avec une grande fureur parce qu'il veut tuer. Parce que quand un jeune homme se pose cette question-là, une petite voix vient lui dire, si tu veux savoir, il faut juste mourir. C'est ça la solution. Si tu veux savoir, tu n'as qu'à mourir. Tu n'as qu'à te donner la mort pour pouvoir savoir c'est quoi. Vous voyez comment il est méchant. Comment quelqu'un à 15 ans peut penser à commencer à avoir des idées suicidaires parce qu'il veut comprendre. Et le diable veut te tuer. Ce matin, ce soir, j'aimerais te dire que l'objectif du diable, c'est de te tuer. Et Dieu m'a fait grâce que quelque temps plus tard à l'église, la prédication était sur la résurrection. Et là, j'ai eu ma réponse. Puisque dans cette Bible, j'ai vu quelqu'un dont on m'a dit qu'il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. C'est là que j'ai commencé à lire Christ pour qu'il réponde aux questions pour ma vie. Et c'est là que Dieu m'a fait grâce. De ne pas passer là. Des fois, vous pouvez vous demander quel peut être l'attachement que quelqu'un peut avoir pour Christ. Mais quand la Bible dit « Dieu t'a sauvé », c'est physique. C'est physique. Je serais mort. Je serais mort si je n'avais pas entendu parler d'un Christ ressuscité. Je serais mort, parce que cette curiosité, elle devenait maladive. Et même, la difficulté, c'est que les parents ne s'en rendaient même pas compte. Les frères ne s'en rendaient pas compte, parce que quand tu poses des questions sur la mort, tu as 15 ans, ils se disent, bon, le gamin, bon, il a discuté avec ses potes, il est un peu perché en ce moment, bon, ça reviendra, quoi. Il est un peu sonné, bon, ça reviendra. Mais ils ne savent pas dans quelle disposition le malin est en train d'attaquer, est en train de creuser dans le cœur d'une personne, et comment il va essayer d'arriver à ses fins. Et la grâce, c'est de voir qu'il y a eu un jour, il y a eu deux jours, et le troisième jour, cet homme est ressuscité. Et donc, Dieu m'a fait grâce de pouvoir dévorer la lecture pour comprendre, mais comment ça se fait que lui, il est passé à travers la mort. Et Dieu m'a fait grâce de comprendre ces choses et de demander le baptême à ce moment-là. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Parce que chacun peut témoigner de sa grandeur dans une vie. Et voyez-vous, lorsqu'on reçoit le baptême, ou même parfois avant de recevoir le baptême, lorsqu'on a une véritable repentance sincère envers Dieu, son esprit vient en nous pour vivre à l'intérieur de nous. Rendez-vous compte de ce Dieu que le ciel ne peut pas contenir. Il dit à Moïse, tu vas faire le tabernacle. Moïse, il lui donne les dimensions du tabernacle. Et lorsqu'on voit les dimensions du tabernacle, les choses sont extrêmement précises. Et dans ce tabernacle, on pourrait lire dans Exode 26, Exode 28, Lévitique 19, on voit qu'il y a trois lieux. Il y a le parvis, là où tout le monde peut aller. Le parvis, et dans ce parvis, il y a une cuve de bronze. Et dans cette cuve de bronze, il y a de l'eau. Et dans cette eau, quand Jésus est venu, il y a des personnes qui étaient malades. Et quand l'eau s'agitait, il fallait qu'ils se jettent dans l'eau pour avoir la guérison. Mais Christ va arriver, va voir un paralytique. Il va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Jean 5. Et le paralytique dit, il n'y a personne pour me mettre dans l'eau. Quand ça bouge, ce sont les autres qui prennent la grâce. Christ va le toucher, va le guérir. Vous comprenez que l'eau qu'il y a, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'eau de la vie. En fait, cette image du tabernacle n'est que l'image de Dieu. Et des fois, on peut avoir du mal à comprendre ce Dieu en disant, mais Dieu, il ne peut pas avoir un fils. Il ne peut pas avoir l'Esprit. Il ne peut pas avoir Dieu le Père. Mais regarde le tabernacle, il est en trois. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint. Tu vois bien, la première partie, Christ. Deuxième partie, son esprit. Troisième partie, le Père. Le Père est là, c'est-à-dire que même la nature nous enseigne sur la nature de Dieu. Lorsqu'on prend un œuf, on voit bien qu'il y a une coquille, il y a le blanc et il y a le jaune. Et pourtant, on dit un œuf. C'est pas moi. Ce que vous voyez, c'est le corps. Il y a deux choses que vous ne voyez pas. Mon âme et mon esprit, ça, vous ne voyez pas. Mais j'ai une âme et j'ai un esprit. Sinon, ça, devant vous, ce n'est que le corps. Et un jour, ce corps retournera à la poussière, il sera inerte, il ne bougera plus. Parce que l'esprit et l'âme ne seront plus là. C'est la nature même de ce Dieu qui lui-même nous a fait à son image. Et donc, il va prendre tout ce tabernacle qui devient Christ, il va envoyer son esprit pour que ce tabernacle entre dans le cœur de l'homme. C'est une grâce que Dieu nous fait. Parce que désormais, il le dit, tu n'as plus besoin de louer à Jérusalem, désormais ta louange, je suis là avec toi quand tu loues. Et lorsque vous voyez ce tabernacle, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de signes qui sont les signes annonciateurs du Christ. Le pain, je suis le pain de vie, Jésus-Christ. Le chandelier, il y a sept, les sept esprits de Dieu, et même la lumière du monde, c'est Jésus-Christ, toujours et toujours lui. Ce soir, le Seigneur t'appelle. Veux-tu le suivre? Veux-tu passer par les eaux du baptême? Quel est ton péché? Qu'est-ce qui te tracasse? Quelle est la question à laquelle tu n'as pas de réponse? Quelle est la chose qui te tient liée encore à ce monde? Te manque-t-il la paix? Christ t'appelle à expérimenter la paix avec lui. La paix il n'y a personne d'autre qui la donne. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la paix. Et pour toi qui as déjà eu le baptême, ou qui va passer dans les eaux du baptême, souviens-toi de Matthieu 28. Dieu t'appelle à faire des disciples. Souviens-toi de ce commandement. Ça devient ta responsabilité. Parce que toi, tu as trouvé le lieu du salut. Tu ne dois pas le garder pour toi. Il faut que tu le partages. Il faut que tu le partages autour de toi. 1 Timothée 4, 3 dit que celui qui est croyant, qui ne s'occupe pas de sa famille, est pire qu'un païen. Et s'occuper de sa famille, c'est d'abord leur parler de l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, ça nous interpelle aussi sur les cadeaux que nous faisons à ceux qui nous entourent. Que ce soit les collègues de travail, que ce soit les gens de nos familles, que ce soit nos voisins. Comment pouvons-nous annoncer la bonne nouvelle du salut? Vous savez que le taux de suicide est le plus élevé chez les jeunes. Le taux de suicide est très élevé chez les jeunes. Parce qu'il y a des questions existentielles. Et comment on peut apporter ce salut du Christ, celui qui propose le repos éternel? Ça, c'est la mission de celui, c'est la responsabilité de celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais n'oublie pas de prier. N'oublie pas de prier avant d'agir. Parce que des fois, nous agissons avec des erreurs. Avec des erreurs. Comment toucher une âme pour qu'elle vienne à Christ? Il faut présenter l'amour de Dieu. Rien d'autre. Ne présentez pas la culpabilité à quelqu'un. Présentez l'amour que le Seigneur a manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous. Personne n'est exempt de l'amour de Dieu. Dieu a aimé toutes ses créatures et il veut que toutes ses créatures soient sauvées. La bénédiction est pour nos frères et sœurs qui vont se baptiser maintenant. La bénédiction est aussi pour vous qui êtes présents en ce lieu. Que la gloire de Jésus-Christ continue à se manifester dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.